Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
J'ai le plaisir de parler à Marie-Claude Djibaou, que j'ai rencontrée il y a 2 ans, que je suis très très heureuse de retrouver. Marie-Claude, vous êtes ici avec un but tout à fait spécial.
Oui, je suis là pour une semaine à l'Alliance française pour faire découvrir à tous ceux qui veulent le projet du Centre culturel Jean-Marie Djibaou.
Alors, on en parlait justement il y a 2 ans, on était au début de la fondation de ce projet. Alors, premièrement, est-ce que vous pourriez présenter ce projet et puis nous parler un petit peu des développements?
Bon, alors je vais faire un petit retour en arrière. Donc, 1975, Mélanésia 2000 en Nouvelle-Calédonie. Jean-Marie Djibaou organise ce festival un petit peu parce qu'il y a une situation, la colonisation, le peuple kanak qui est déprimé, qui s'enfonce dans l'alcool, et donc il y a nécessité de créer un événement qui mobilise le peuple. Donc Mélanésia 2000, en fait, c'est une quête d'identité. C'est un peuple qui prend conscience qu'il a une culture qui lui est spécifique. Certes, il est français parce que il est à la colonisation, mais promotion, valorisation de la culture, le patrimoine qui est disséqué et que l'on remet pendant une semaine à l'hôtel, donc dans la ville, par le biais d'une grande manifestation, Mélanésia 2000.
Donc, au départ, c'était Jean-Marie lui-même.
Voilà. Donc pendant une semaine, des danses, des chants, les généalogies, l'expression d'une culture bien vivante, de l'artisanat, de la culture. Et puis là, d'abord pour le peuple kanak, une prise de conscience d'une identité, mais aussi pour les autres, donc les non-kanaks du territoire, la première fois une grande manifestation kanak dans la ville. Ils prennent conscience qu'il y a un peuple, et donc c'est une découverte. À part bien sûr les chercheurs qu'on a l'habitude de voir et puis qui viennent, qui collectent,
oui. Et puis dont les œuvres peut-être ne se répercutent pas.
Oui, en fait, bon, c'est vrai, ils viennent, ils font des recherches, ils font de la recherche. Ça sort par le biais de gros volumes volumineux, quoi,
qui se retrouvent sur le rayon des bibliothèques.
Qui ne sont pas accessibles à tout public, quoi. Donc 1975, ensuite. Il y a donc ce réveil de la population kanak. En même temps, pour Jean-Marie Djibaou, c'est la revendication du peuple kanak, son droit inné et actif à son indépendance, qui est reconnu donc à Nainville-les-Roches. Et puis, la suite, on la connaît, quoi, les bouleversements, parce que la Nouvelle-Calédonie étant toujours terre française, les vagues viennent jusqu'à nous et je pense que il y a eu un essai d'offrir ce qu'était la culture, ça n'a pas été compris. les gens se sont braqués. Il y a eu les événements. Bon, ça a été terrible, quoi, parce que l'oppression, mais 1988 voit la fin des événements avec la signature des accords de Matignon. Et dans cette loi référendaire qui régit le territoire, il y a la mise en place de l'Agence de développement de la culture kanak.
Et je crois que c'était il y a environ 2-3 ans, donc voilà. On était encore au balbutiement, disons.
Vous voyez, le centre va donc, est en cours de construction aujourd'hui, il va s'ouvrir l'an prochain, en mai 98, et effectivement, on peut se rendre compte que ce projet a beaucoup... je dirais pas traîner, parce que c'est un projet qui a un
qui devait mûrir aussi.
Qui devait mûrir, mais qui est un petit peu spécial. C'est un projet du président de la République. Il a un financement intégral donc de l'État français, mais il a des règles bien précises dans sa mise en route. Donc il y a des bon l'avant-projet, la il y a toute une procédure qui a été longue à établir, parce que malgré tout, le bureau de Renzo Piano, qui est donc le lauréat, l'architecte qui construit le projet, il est à Gênes, il en a un à Paris, il y a les événements politiques qui continuent à faire l'actualité de notre pays, et bon, ben voilà quoi.
Puis en Italie aussi d'ailleurs.
Et en Italie aussi. Voilà, mais bon, le projet donc est en cours de réalisation. C'est un projet qui est en train de devenir réalité. Et donc, nous sommes ici pour en parler. Et en fait, nous profitons de la venue de Merem pour le festival ici à Melbourne pour utiliser cette opportunité pour faire de la sensibilisation autour de ce projet.
Alors, vous venez avec une exposition. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette exposition Kanak?
Alors, l'exposition, en fait, c'est une exposition qui est concentrée sur le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou. C'est un petit peu la philosophie du projet, comment il a été mis en place, comment il se construit, ce qu'on va y trouver, les différentes activités, comment a été pensée son architecture, enfin tout ce qui concerne le projet. Donc il y a une suite de panneaux avec donc bilingue. Et puis, avec les explications qu'il faut, il y a un support audiovisuel, donc une télévision qui va vous donner un petit peu la description du projet. Et puis, une série de réalisations audiovisuelles qui sont le fait des actions de l'agence et que l'on pourra visionner. Et puis, des documents, donc des écrits.
Une chose, on a dit que le centre était en cours de construction maintenant, mais les activités, elles, ont débuté dès le début.
Alors, bon, le centre, c'est vrai qu'il, bon, officiellement, il démarre depuis 1991, mais en fait, l'agence existe avec la loi référendaire. Et dans la loi référendaire, donc les actions de l'agence sont bien spécifiées. On est là pour promouvoir la culture, on est là pour accompagner la culture dans ses formes nouvelles d'expression. Et puis on est là aussi pour mener des relations avec les pays de la zone, donc du bassin pacifique. En 91, sous la proposition donc du premier ministre de l'époque, l'idée de construire un centre culturel. L'idée est accueillie par le président de la République qui accepte d'en faire son projet. Et puis, il a fallu penser un centre pour quoi faire, qu'est-ce qu'on y fait. Donc, il y a toute une réflexion qui a été menée par des consultations en direction des politiques, des différentes associations. Et bon, petit à petit, parce que l'agence a aussi fonctionné, nous avons imaginé le contenu. Bon, c'est sûr que quand on regarde le contenu du centre culturel aujourd'hui, on réalise que c'est un centre culturel qui n'a pas tout à fait la même vocation que les centres culturels comme on pourrait les trouver en France. Ou bon, c'est vrai que au départ, le centre, il est né d'un déséquilibre, l'inexistence d'une expression culturelle kanak. Donc il y a nécessité d'accompagner aujourd'hui nos groupes. On est là pour accompagner Merem, mais c'est la première fois qu'il vient en Australie. L'an dernier, on est venu avec une autre troupe parce qu'il faut accompagner. il faut accompagner. C'est des choses qui n'existaient pas. Il y avait bien de la danse ou du chant traditionnel, mais l'expression moderne, ça n'existait pas. Donc voilà, aujourd'hui on utilise de la batterie, des guitares synthétiques ou électriques. C'est quelque chose qu'il nous faut maîtriser. Sur une scène, il y a un comportement qui est spécifique. Enfin, il y a toute une série de gestes qu'il faut connaître et puis il faut expérimenter. Donc voilà, l'accompagnement se fait comme ça. Il y a toute une série d'actions que l'on a conduites.
Vous me parliez il y a quelques années de cette tradition bardique de raconter les histoires aux enfants et recueillir ces histoires.
Alors oui, ça fait aussi partie de nos actions de faire la collecte du patrimoine. Donc c'est vrai, on fait des actions au niveau patrimoine, linguistique. Bon, on fait des concours de littérature, on accueille des à Nouméa. Des groupes de... Bon, il faut savoir que le pays, il est très petit, mais il y a une multiplicité de langues, oui. Avec différentes expressions. Donc, on accueille les gens des îles, on accueille les Aïe de la Grande Terre. Nous essayons d'organiser un petit peu la culture. C'est vrai que la culture se vit. Mais si on veut qu'au centre, il y ait des actions coordonnées, il y a nécessité quand même de coordonner toutes ces actions, de les planifier, de permettre que les gens puissent aujourd'hui exprimer de la culture traditionnelle ou même des choses contemporaines. Mais enfin, pour dire quoi, c'est pour dire que... un petit peu conforter l'idée que la culture kanak, c'est quelque chose qui doit exister, qu'il n'y a pas honte, il n'y a pas de honte à être kanak, que c'est une musique qui peut s'expatrier, qui peut s'exporter.
Et se vendre.
Et se vendre aussi. Donc, et puis on fait plein d'autres choses. On accueille des groupes qui viennent d'ailleurs aussi. On participe dans l'élaboration du Festival des Arts du Pacifique. Depuis 2 ans aujourd'hui, on a mené des opérations qu'on appelle préfigurées, préfiguration des actions de préfiguration. C'est un petit peu permettre à nos techniciens de se mettre en situation pratique, de techniciens du son, de techniciens du théâtre, de techniciens de... Et le fait d'organiser la culture permet aux gens qui jusqu'à présent étaient hésitants de s'exprimer. Nous avons pu, par exemple, aller au Festival des Arts du Pacifique, donc à Pia dernièrement, avec une troupe de théâtre qui a traité le problème du viol, par exemple, mais sur la forme théâtrale. Bon, le titre, c'était « Où est le droit ?» Ça veut dire quoi ? Dans cette pièce de théâtre, il a parlé de la manière traditionnelle de régler le conflit, les deux droits qui se juxtaposent toujours et
dont on a l'expérience ici en Australie aussi.
Et du déséquilibre que cela causait quoi au niveau de la société. En fait, on mène plein d'actions, beaucoup d'actions.
Donc c'est du social aussi par le biais de la culture dans un sens, parce que c'est une forme de sensibilisation, mais c'est aussi d'éducation et de prise de conscience.
Oui, et puis c'est aussi pour dire que celui qui fait du théâtre ou celui qui fait de la musique, c'est son mode d'expression. S'il sent un malaise, c'est sa manière à lui de le dire, quoi. Il y en a qui vont l'écrire. On aide aussi, on soutient beaucoup les actions en direction des écrivains. Ça, c'est quelque chose.
Il y a de nouveaux écrivains qui émergent en ce moment.
Il y en a quelques-uns. Enfin, disons que ce n'est plus du domaine. Que du domaine des Européens. De plus en plus, les Kanaks commencent à écrire, commencent à faire des poèmes, et ça, c'est intéressant. Parce qu'autrefois, on a toujours eu l'habitude d'avoir notre culture disséquée par les chercheurs, et puis maintenant, c'est nos gens qui écrivent. Donc, pour moi, ça me...
De la source même.
De la source même.
Et l'optique doit être différente.
C'est sûr qu'un Kanak, quand il parle de ses entrailles, c'est mieux que si c'est quelqu'un qui essaie de ressentir quelque chose qu'il ne vit pas.
Est-ce qu'il y a des dissensions quant au symbolisme, est-ce qu'il y a des problèmes de compréhension quelquefois entre les groupes eux-mêmes, entre les différentes langues, entre... Est-ce qu'il y a des problèmes aussi de jalousie pour la prédominance d'une langue contre une autre langue?
Je n'ai jamais senti ça parce que chacun parle sa langue. Bon, c'est vrai que le fait aussi d'avoir plusieurs langues ne permet pas toujours la communication. On se communique souvent en français, mais non, je n'ai pas senti ça.
Donc il n'y a pas véritablement une langue qui prédomine sur les autres?
Il y a des locuteurs du païti, il y a des locuteurs du déou, pareil pour les néonés, et puis pour toutes les autres langues. Mais
il n'y a pas d'échelle de valeur?
Non, non.
Qui s'implique à une langue ou à une autre langue?
Sauf qu'il y a certaines langues, par exemple comme le handié, qui sont parlées par beaucoup de personnes des îles parce qu'ils ont été à l'école protestante. Et la Bible a été traduite en premier en langue handié. Donc forcément, pour une meilleure compréhension de la Bible, ils ont dû apprendre cette langue-là. Mais c'est... Non, c'est pas...
Ça Quels sont les rapports maintenant des peuples kanaks avec la religion? Parce que la religion, c'était véritablement la pénétration européenne.
Avec la...
Parce qu'il y a eu deux religions, il y a le catholicisme et le protestantisme. Voilà,
pour le peuple kanak, ses relations avec... Bon, il y a des kanaks qui sont très chrétiens catholiques, il y en a d'autres qui sont très chrétiens protestants. Bon, il faut savoir que l'église protestante en Nouvelle-Calédonie a vite opté pour soutenir l'action des indépendantistes. L'église catholique, elle est beaucoup plus réservée. Il n'empêche qu'il y a 2 ans, elle a fait un geste significatif par le biais d'une grande manifestation qui s'est faite donc dans le nord du territoire, là où l'église est arrivée il y a 100 ans. Et où elle reconnaissait, demandait pardon pour toutes les erreurs commises, quoi. Donc, c'est quand même une démarche intéressante. De plus en plus, les deux églises ont.
Dialogue quand même ensemble.
Dialogue et ont tendance à. Bon, une anecdote, du 26 décembre au 1er janvier de cette année, nous avons fait ce que l'on appelle là-bas la semaine de l'unité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les protestants et les catholiques ont, à tour de rôle, été dans le temple ou été dans une église pour célébrer ensemble. Donc, une fois...
comme d'écuménisme.
Voilà, plutôt.
Donc, et d'unité.
Et d'unité.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé leur foi.
Ben, il n'y a pas de contradiction. Hein. Non, il n'y a pas de contradiction entre la foi chrétienne et puis nos croyances.
Par exemple, pouvez-vous nous donner des exemples?
Ben, moi, je suis quelqu'un qui va à l'église. Bon, moi, j'ai une mère qui était catholique, un père qui a accepté la religion protestante chez nous. Ma tante est une religieuse, donc depuis toujours, j'ai célébré...
Vous avez baigné dans cette atmosphère.
Bon, je me suis... Mon père était un monsieur de droite, je me suis mariée à un indépendantiste.
Vous avez véritablement pratiqué la tolérance par excellence.
Oui. Et je ne... Pour moi, il n'y a pas de contradiction.
Et il n'y a pas eu de rejet de la religion comme étant un apport de l'étranger?
Non.
Ça a été intégré.
Ça s'est digéré. S'il y a eu de l'obstruction du temps des vieux, ça c'est... Mais bon, aujourd'hui, non, je ne peux pas dire que... Je n'ai pas souvenir de choses qui... Ou même, bon, ça aurait pu être le cas de la jeunesse qui se rebelle contre l'Église catholique parce qu'elle a... soudoyer nos grands-pères, enfin je dis n'importe quoi, mais non, aujourd'hui, quand nos jeunes ont un malaise, ils fument, ils boivent, ça c'est autre chose.
Ce qui est un peu le malaise qu'on retrouve chez tous les jeunes, partout.
Ouais.
Est-ce que la culture leur redonne des points de repère et les ramène à l'intérieur de la communauté, justement, les éloigne, disons, de l'alcool, des drogues?
J'ai conscience qu'un petit kanak qui a grandi à la ville, c'est un petit étranger. S'il ne connaît pas la vie à la tribu, il a beaucoup perdu. Néanmoins, moi je sais que depuis la mise en place de la DCK, et en particulier de sa médiathèque, enfin d'un espace où les Kanaks peuvent se retrouver, où ils peuvent se ressourcer, on a un afflux de jeunes gens qui arrivent et puis qui c'est valorisant pour eux que leur culture soit prise en compte, que ça leur donne une assise, on fait attention à eux, il y a quelque chose qui est prévu pour eux, alors qu'autrefois les références, c'était toujours les références d'ailleurs. Aujourd'hui, on leur parle de leur sapin, de leur case. Il y a des montages audiovisuels sur leur culture, sur leur conte, sur leur légende. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça.
Ils appartiennent.
Oui. Et ce que je peux dire aussi, c'est que au niveau des enseignants, il faut dire aussi que en simultané, quoi, en même temps qu'il y a la mise en place de la DCK, il y a une prise de conscience au niveau des enseignants qu'il faut considérer la culture des autres. Il y a une ouverture d'esprit. Donc ils trouvent là des outils pédagogiques. C'est intéressant.
Et ils y puisent.
Et ils puisent là. Parce que vous savez, nos enseignants, c'est pas toujours des Kanaks. Ils connaissent rien de nos affaires. Mais s'ils ont quelque chose qui peut être un support pour eux, pour leur leçon d'histoire ou leur leçon de grammaire ou même culture générale, c'est intéressant.
Et là, ça s'applique à toute la population scolaire.
Toute la population scolaire, mais à tous ceux qui veulent aussi, à ceux qui veulent ça. Bon, on vient en Nouvelle-Calédonie. La plupart du temps, autrefois, on vient où sont les Kanaks. On les voit bien, mais comment ils s'expriment? Comment ils... Il n'y avait nulle part un endroit où ils pouvaient trouver. Aujourd'hui, on trouve. Ils viennent, ils s'installent, ils font comme vous, ils écoutent, ils regardent, et ils ont les renseignements ou... Bon, s'il n'y a pas le renseignement, on essaie de les informer, de les aiguiller vers la source.
Donc finalement, c'est un centre culturel, mais c'est surtout le contraire d'un musée. Il y a des archives, certes, mais c'est surtout
c'est quelque chose qui vit. C'est quelque chose qui... Mais dans le centre, quand même, dans son organisation, et puis même dans les actions qui y sont menées, il y a quand même trois villages qui ont une fonction bien précise. Le premier village, c'est quoi? C'est un endroit où tout Kanak... Quand ce premier village, il y a trois cases. Une case que l'on appelle Kanaké, c'est là où celui qui arrive, territoire français d'Océanie, oui, mais ici c'est les Kanaks. Il rentre 8 minutes, il est branché sur quelque chose et il est dans le monde Kanak. Il a des sons, il a des rites, il a des images, c'est un bain.
Il baigne.
Voilà. Parce que il faut le mettre dans le sujet. Il y a une case qui est à côté. Bon, on les a nommés avec des noms de chez nous parce que, il faut... Il y a une autre case qui s'appelle...
L'immersion, finalement.
Voilà, qui s'appelle Dinou. Cette case-là, elle est quoi? Elle est la case où... je crois que c'est la plus grande. C'est la plus grande. On va y trouver dans cette case des objets du Pacifique qui nous ont été... qui vont nous être cédés. À la manière traditionnelle, dans la manière traditionnelle, et qui sont là pour faire la relation entre la Nouvelle-Calédonie avec les pays du Pacifique. C'est-à-dire, nous on est des Noirs, la Mélanésie, les gens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu, Salomon, etc. Puis après, il y a une autre case à côté qui est un petit peu un espace où... pour lequel on a prévu la venue d'objets qui sont actuellement dans des musées européens, internationaux, enfin de par le monde, et puis que l'on a sollicité pour des dépôts.
Et que vous allez récupérer.
Et que nous allons, qui vont venir pour un temps bien défini et qui vont retourner. Mais c'est pour que ça soit quelque chose qui tourne. Parce qu'on se dit aussi que la culture kanak, c'est bien qu'elle soit présente dans tous les musées de la planète.
Enfin, donc c'est une ouverture aussi sur le monde. Hein.
Ben
c'est
oui,
une ouverture.
C'est quelque chose qui est bien inscrit dans le... Mais ça se retrouve aussi au niveau de l'architecture du centre. Si vous avez regardé un petit peu, Renzo Piano a pensé le centre un petit peu comme un challenge entre le traditionnel et la modernité. À partir de la structure traditionnelle, il a fait des formes... on n'a jamais vu de case de 28 mètres de haut, mais la plus haute, elle sera à cette hauteur-là. Avec les techniques d'aujourd'hui, des matériaux d'aujourd'hui. Non, c'est quelque chose de fantastique, le centre.
Ça, ce qui est intéressant, c'est que ce soit un Italien qui a été choisi.
Ben, pour le
encore cosmopolitisme, ouverture.
Oui, non, mais c'est parce que les grands projets de la présidence de la République, ils ont un fonctionnement, enfin, des règles de réalisation bien précises. Donc, on a dû lancer un concours international. Donc, on a eu une sélection d'architectes du monde entier. Où on a quand même exigé qu'il y ait une représentativité des gens du Pacifique. Et puis, on a sélectionné 10 d'entre eux qui sont venus sur le territoire, que l'on a briefé et qui sont repartis. Puis après, bon, ben, la copie, c'était... on a sélectionné 3 architectes et donc, avec le président de la République, François Mitterrand, nous avons retenu... j'ai retenu Renzo Piano qui me paraissait le plus beau.
Donc c'est votre choix, Marie-Claude Gibaud.
Nous avons choisi ensemble avec le président.
Il ouvre l'année prochaine, le centre. Mm-hmm. Alors maintenant, j'aimerais, si vous le pouvez, donner un message, lancer un message à nos auditrices et nos auditeurs. Et aussi à des visiteurs en puissance en Nouvelle-Calédonie dans les années à venir.
Ben moi, je leur dis déjà que donc l'an prochain, c'est l'inauguration officielle du Centre culturel Jean-Marie Gibaud, que tous les peuples du Pacifique et du monde entier sont les bienvenus. Nous avons pensé, et Jean-Marie Gibaud en premier, à penser qu'il fallait que l'on essaie de faire partager ce que la culture kanak avait d'universel avec tous les peuples de la Terre. Donc, bienvenue à vous tous. Je leur dis aussi que même si nous sommes 80 000 Kanaks, nous sommes fiers d'être Kanaks, d'être ces Kanaks, d'être ces indigènes de Nouvelle-Calédonie. Et voilà, je leur souhaite d'avance la bienvenue. Et puis Merem, c'est chez nous on dit le Kaneka, c'est un groupe de jeunes des îles Loyauté, qui va faire des chansons lifou, mais qui va aussi qui essaie aujourd'hui à sa manière d'entrer dans le monde des grands. C'est pas toujours évident, ça sera pas toujours parfait, mais voilà, on est ces gens-là qui essayons d'avancer.
Donc il faut aller voir l'exposition, il faut aller écouter Merem.
Il faut aller voir l'exposition et il faut aller écouter Merem.
Et il faut écouter notre émission à 11h le mardi où ils seront les invités.
Voilà.
Jean-Marie Gibaud, survie dans les cœurs.
Oui, je pense que au travers de tout ce que nous faisons, il survit. Et puis je dis aussi qu'il ne faut pas que ces gens-là qui sont tombés. Bon, il y a eu lui, il y a Yewene, Luama Choro, Ataï, et puis tous les autres. C'est des gens qui sont morts parce qu'ils avaient, ils étaient différents. On est français aujourd'hui, mais on est d'abord Kanak. Et on est fiers d'être Kanak. Et puis on a notre... Il n'y a pas lieu de se taire sous prétexte qu'on ne sera jamais les Français de France.
Marie-Claude Dupaou, merci.
Merci à vous.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.